Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Et bienvenue dans votre émission où nous nous retrouvons ce vendredi 7 juin sur Radio Occitanie. Alors merci à Nance qui fait la technique aujourd'hui de cette émission. Aujourd'hui, je reçois Maurice Zitniki. Bonjour Maurice.
Bonjour.
Avec qui nous allons parler de son dernier roman policier intitulé « De chacun selon sa haine » publié aux nouvelles éditions Loubatière. Si d'ailleurs Maxence Fabiani nous écoute, on lui fait un petit coucou.
Et moi de même.
Et bien voilà. Alors, mais avant d'en parler ensemble et avant la page info, j'aimerais avoir une pensée toute particulière pour une auteure qui nous a quittés prématurément, Patricia Paris. Alors, on pense très fort à sa famille, à ses amis. Elle était venue à page nous présenter Petits arrangements avec l'infâme et puis 5 leçons sur le crime et l'hystérie. 2 romans policiers bien noirs et bien mystérieux à souhait, avec beaucoup de suspense et très bien écrit. Et puis, avec un personnage récurrent, le beau psychiatre toulousain Antoine Letellier. Et elle devait d'ailleurs venir à l'automne prochain nous présenter son nouveau roman policier intitulé « Sur un lit de fleurs blanches ». Alors, c'était une auteure talentueuse, humaine et chaleureuse et accessible. Elle était venue en toute simplicité à page. Elle était psychiatre et puis elle était aussi, bien sûr, et en premier lieu, maman et épouse. Alors, on pense bien fort à toute sa famille et elle va manquer beaucoup à tous. Et je ferai certainement une émission à la rentrée, enfin à l'automne, avec ses amis auteurs pour lui rendre un hommage largement mérité. Alors voilà, la transition est un peu difficile avec la page info.
Oui, je peux juste peut-être dire un mot très rapide parce que je me trouvais avec elle il y a très peu de temps, en fait, en avril au salon de Balma.
Tout à fait.
Nous participions ensemble à une table ronde avec Brice Torresilla qui interviewait. Il y avait Dominique Del Pirou également. Et Patricia était, parfaitement, elle n'était pas au mieux de sa forme, mais je veux dire, tout fonctionnait, tout était bien, l'enthousiasme était intact, tel qu'on l'a toujours connu chez elle.
Oui,
et la
fait.
Nouvelle de cette nouvelle a été alors du coup d'autant plus terrible.
Terrible et surprenante, voilà. Tout à fait. Donc on pense bien à elle aujourd'hui, à sa famille, à ses amis. Alors, demain, samedi 8 juin à 9h30 à Cultura de Balma, une rencontre avec Gargouillette et son maître Francis Lafitte pour leur guide Visiter Toulouse avec Gargouillette. Et on les retrouve également le samedi 15 juin à Cultura, mais de Castel-Sarrasin, toujours à 9h30. Et puis ce week-end, eh bien, week-end de lecture avec le 5e festival du livre à Sainte-Foy de Pérolière, samedi 8 et dimanche 9, autour du thème « Le roman ». Des rencontres, des débats, du partage autour des auteurs présents et leurs nouveautés littéraires. Alors parmi eux et entre autres, hein, Michel Baglin, Francis Pornon, Pascal Dessin et encore Béatrice Balti, Colette Berthès ou Nicole Zimmermann. Et puis également des auteurs jeunesse seront présents. De la musique également avec le groupe Trio Bergine. Et puis la librairie, bien sûr, la librairie Renaissance qui vous aidera dans vos choix de lecture. Alors l'entrée est libre, c'est un beau week-end à Sainte-Foy de Pérolière en perspective pour petits et grands.
Page à page, Claire Ambille.
Alors, ce roman policier de chacun selon sa haine de Maurice Zitniki aux éditions, nouvelles éditions Loubatière, c'est donc votre troisième roman, Maurice. Oui, troisième roman policier.
Tout à fait juste, oui.
Après Le piège du sang de serpe, qui était plutôt dans le domaine financier.
Oui, c'est ça.
Fraude financière.
C'était une fraude, une attaque contre une banque, une attaque à un jeu de billard à deux ou trois bandes pour attaquer une banque de façon à la fois informatique et de façon beaucoup plus explosive aussi.
Voilà, mais voilà. Ce sont des choses, le côté informatique ne fonctionne pas, il faut quand même le préciser hein, aux nos auditeurs. N'achetez pas le livre pour essayer de voir si ça fonctionne. Hein.
Ah oui, le piratage d'un système bancaire, non quand
voilà,
même pas.
Non, voilà, vous n'avez pas donné les ficelles. Alors, le deuxième roman, c'était L'Étal Rock, c'était plutôt une enquête dans le domaine musical du rock à Toulouse, d'ailleurs, également. Le premier aussi, ça se passait à Toulouse, donc dans le milieu de la musique.
Oui, c'était un jeune groupe à qui tout réussissait et il va y avoir
des morts.
Au début,
voilà.
Bon, on ne dit pas toute la suite, et voilà.
Alors, le troisième, donc celui-ci, c'est plutôt dans le domaine, entre guillemets, politique, mais c'est vrai que ça ne recouvre pas trop, le mot ne convient pas trop, en fait, parce que c'est vrai que c'est dans le domaine politique, mais ce n'est pas vraiment politique comme on pourrait le penser.
Oui, c'est plutôt le politique comme une sonorité, comme on pourrait parler de la musique sans le groupe musical, c'est dans l'Étal Rock, mon précédent roman. La toile de fond, c'est la musique. Et là, la toile de fond, c'est le politique. Alors, pas au sens des débats télévisés avec des responsables de parti, pas du tout. Mais au sens d'un certain état du pays et d'un état, je suppose, dont vous allez parler maintenant.
Organisation secrète, etc., avec une forme de racisme, mais de deux côtés, une haine, hein, parce que le livre parle de haine aussi dans le titre et dans le livre, hein, on va le voir, hein, elle est omniprésente. Et alors, on retrouve dans ce troisième roman le personnage de Leïla Hilmi, on la retrouve avec grand plaisir d'ailleurs, déjà présente dans les deux autres romans. Donc, Leïla Hilmi, la capitaine de police de Toulouse, avec son patron, le commissaire Santos.
Oui,
On
les retrouve tous les deux. Juste une petite précision.
Oui.
Elle est capitaine et le nom, je l'utilise toujours au masculin. Je ne dis jamais une capitaine.
D'accord.
Alors, vous allez me dire, je comprends pourquoi vous dites une capitaine. vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est un des aspects de ce roman et de ce personnage à travers tous les romans, c'est d'utiliser des désignations masculines pour les mots ordinairement masculins et de les appliquer à une femme sans que d'ailleurs sa féminité soit, ma connaissance,
tout à fait, hein,
diminuée en quoi que ce soit.
Tel que vous la décrivez, on l'imagine, tout à fait féminine,
oui,
coquette, etc.
Tout à fait, oui, c'est tout à fait la façon dont elle est imaginée. Et c'est de faire cette... je ne fais jamais de glissement sur le genre des noms lorsque j'écris d'une façon générale. Voilà.
Donc, le capitaine de police, Leïla Hilmi.
Voilà.
Et son chef, donc le commissaire Santos. Mmh. Alors, l'histoire se déroule en partie donc, à Toulouse avec Leïla et puis le commissaire Santos et donc toute l'équipe, tous ses collègues, mais aussi à Paris. Et puis, on va le voir avec l'organisation secrète. Et puis à Grenoble aussi, pour un épisode tout à fait dramatique et musclé, explosif, pourrait-on dire plus exactement.
On peut dire terroriste.
Oui, un épisode terroriste à Grenoble. Donc, cette ville, vous connaissez Grenoble? Parce que Paris et Toulouse, je sais que ce sont deux villes que vous connaissez, puisque vous êtes un petit peu vous naviguez entre les deux.
Oui.
Si je puis dire, Maurice. Mais Grenoble, vous connaissez bien?
Oui, je suis allé assez souvent à Grenoble.
D'accord.
Pour des raisons professionnelles, familiales.
C'est pour ça que vous avez eu envie de citer Grenoble.
Oui,
dans ce roman.
Alors, en même temps, il est question c'est d'un quartier qui avait fait l'objet d'études, qui avait été un peu un phare d'urbanisme à une époque, dans les années 68, quand il avait été conçu, qui était censé être un nouveau genre de lieu de vie, avec plein de mixité,
Choses. Les barrières, que l'intégration se fasse.
Voilà, alors il est assez symbolique parce qu'on sait bien que ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce quartier. Bon, c'est vrai qu'il est à Grenoble, que je connais Grenoble. Mm-hmm. Maintenant, il faut. Disons que ça ne va pas plus loin que ça
oui,
par rapport
voilà,
à la ville de
Grenoble. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, c'est une enquête, cette fois, comme on l'a dit, donc qui se déroule dans un monde, on pourrait dire, de convictions extrêmes, mais dans le mauvais sens du terme. Parce que, bon, on peut avoir des convictions, et c'est bien d'en avoir, mais enfin, elles sont extrêmes, celles-ci. Elles amènent à la violence, elles amènent à la haine de l'autre.
C'est un groupe, finalement. C'est un groupe clandestin.
Voilà, une organisation secrète.
Voilà, une organisation secrète, enfin, oui, secrète, structurée en réseau. Mais
oui, elle a des branches dans plusieurs villes.
Voilà, des branches de France. Et qui sont organisées de façon très souple. Et quand vous imaginez, quand on suit un petit peu l'actualité, sans entrer dans des grandes considérations politiques, comme vous disiez, puisque ce n'est pas le but, on imagine bien que des organisations terroristes organisées en réseau de façon très souple, très informelle, ça fait partie un peu du paysage de nos craintes aujourd'hui.
Ben oui, oui. Ben d'ailleurs, il est inquiétant pour ça hein, aussi, voilà. Votre roman policier,
ben
Maurice,
oui,
parce que
le but, oui.
On se dit que c'est vraisemblable. C'est une fiction, certes, mais qui est vraisemblable, et c'est ça qui fait peur. Donc voilà, c'est un monde où la haine est reine, hein, la haine et la violence, hein, forcément, parce qu'il faut des actions, hein, c'est une organisation qui fait des actions. Alors c'est une organisation qui s'appelle le Comité Louis Négrette, du nom de ce plombier qui avait été assassiné. Donc ça, c'est une histoire vraie. Hein.
Non, pas du tout, c'est une histoire que j'ai inventée.
Bon. Non, ce plombier n'a jamais existé, il n'a jamais été assassiné. Mais pourtant, on aurait pu croire hein, que c'était vrai.
Bien, vous me faites très plaisir parce que ce qui prouve que l'histoire fonctionne.
Ah oui, tout à fait. La fiction devient réalité.
Voilà.
Alors, donc,
trois mots sur ce plombier parce que j'ai voulu faire quelque chose d'assez réaliste. Donc, c'est un homme qui va faire une réparation dans un grand ensemble. D'un lieu dit sensible et qui voilà, fait une réparation tout à fait ordinaire de plomberie et qui va se retrouver assassiné voilà, et qui va devenir un symbole compte tenu des conditions de son assassinat. Voilà.
Alors, c'est pour ça qu'ils ont appelé leur organisation le CLN, Comité Louis Négrette. Alors ce groupuscule, si on peut dire, est composé de 5 personnages, hein, tout du moins pour Paris. Hein, avec des noms de code, bien sûr, des rendez-vous secrets, un tas de sécurité au niveau de pour se retrouver, etc. C'est rigolo d'ailleurs. Et puis il y a bien sûr le point commun entre tous ces 5 personnes, c'est la haine, hein, la haine en partage, si on peut dire. Cette haine, on va le voir.
Oui, enfin, il y a une haine et il y a une conviction politique.
Oui,
c'est-à-dire
conviction politique.
Ils estiment, il y a un projet politique, c'est pas très compliqué, je veux dire. Ils estiment que la France est envahie, qu'il faut la libérer, et voilà, ils défendent
conviction.
Voilà, et ils défendent ce point de vue. Alors, c'est vrai qu'il est haineux, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Oui, puis violent, parce que ça s'accompagne d'action, on va le voir. En plus, ce sont des personnages qui, au départ, sont standards. Il y a un avocat, il y a un vendeur de BD, il y a un homme d'affaires, il y a aussi un chômeur au RSA. Puis la dernière entrée, Clémentine, ça c'est son autre code, Clémentine, elle travaille dans la com, dans la communication, dans une boîte de pub.
Oui.
Donc vraiment, ce sont des gens qui, comme vous et moi, entre guillemets, voilà.
Alors c'est un peu comme ça d'ailleurs que j'ai conçu, c'était quand vous parliez de la crédibilité, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça pourrait arriver. J'ai appuyé ça pour ça. Ben justement, sur des descriptions de personnages, vous, moi, tout le monde, ils n'ont rien de particulier, effectivement, un engagement terroriste. On ne peut pas le décrire autrement. Mais j'ai fait à chaque fois, j'ai décrit des personnages de façon très neutre, sans plus, sans plus de dénégation, sans plus en restant à la description
en
des
surface,
faits.
En surface, ce sont des gens comme les autres. Et puis, à l'intérieur, ils se sont des convaincus à l'extrême de leurs idées politiques, de leurs idées...
C'est un des ressorts pour donner du crédit à cette histoire, c'est que j'ai pris.
Tout à fait.
Voilà, quoi.
Donc ça, c'est côté Paris. Alors, côté Toulouse, il va se passer déjà, il y a un couple de professeurs de chimie qui va être assassiné, ils vont être assassinés chez eux, hein, à leur domicile. Et donc, c'est Leïla Ilmi qui est chargée de l'enquête. Et cette enquête-là, hein, dans ce roman-là, va la mener bien loin d'elle-même, d'ailleurs, si on peut dire, hein, sans en dévoiler trop. Et avis aux auditeurs pour la lecture, voilà, ça va l'emmener bien loin, Leïla.
Oui, alors d'une part, ça l'emmène loin professionnellement parce qu'elle se trouve embarquée dans une affaire de terrorisme qui sort du domaine normal de la police judiciaire pour laquelle elle est.
Oui, tout à fait.
Et donc qui est pilotée par Paris.
Voilà.
Parce que l'antiterrorisme
c'est la capitale, voilà, hein, ça se passe.
Est pilotée par Paris. Donc elle est forcément dans une équipe policière, et c'est bien normal pour établir toutes les corrélations qui s'imposent. Et elle va être prise également dans une autre aventure dont on ne va peut-être pas tout dire, qui est plus personnelle, enfin,
oui,
qu'elle croit personnelle, et en fait qui s'avère être une...
un montage, oui, quelque chose, bah, oui, voilà, de pas très positif non plus.
Voilà.
Donc justement, cet assassinat donc des professeurs de chimie à Toulouse rappelle un renvoi au symbole de l'assassinat de l'instituteur du 1er novembre 1954 par le FLN algérien. Donc voilà, tout le monde commence à penser qu'il y a une affaire de politique là-dessous, sous cet acte barbare. Hein,
voilà.
Et puis donc, comme vous le disiez, Maurice, Leïla se laisse séduire par en fait un ancien copain de fac de son patron, le commissaire Santos. Et puis, elle, qu'on n'a jamais trop vue avec un homme, hein, finalement, dans les deux, dans les autres romans, là, on la voit, donc, qui se laisse séduire par cet homme. Et il y a de l'humour, d'ailleurs, dans la description de leur dîner en tête-à-tête, parce qu'elle, elle est séduite par les manières aristocratiques, surannées de ce quinca séduisant. Et puis lui, on s'aperçoit qu'il la trouve vulgaire, inculte, mais qu'il joue le jeu, parce qu'il faut qu'il joue le jeu. Et donc, les descriptions, je trouve, m'ont fait beaucoup sourire. C'est des passages où il y a beaucoup d'humour.
Oui, j'ai voulu
détendre un peu l'atmosphère,
voilà,
aussi.
Détendre et puis surtout montrer la,
le décalage.
Voilà,
c'est l'énorme décalage.
Ah, oui. Souvent, mais ça, c'est ce qui nous arrive. On regarde des gens, on leur prête d'un certain nombre de pensées et ils pensent totalement autre chose.
Et inversement.
Bon, là, évidemment, il est en service commandé, donc il y a quand même quelque chose, il y a une intention. Mais c'était au-delà de cette intention là, liée à la fiction. Lié à l'histoire, il y avait aussi l'idée de dire que bah, souvent on se trompe beaucoup sur les pensées des autres. Voilà.
C'est vrai. Mais après, tout le monde n'a pas l'art de faire le masque du gentil en étant méchant à l'intérieur.
Oui.
Lui, il a vraiment la palme.
C'est vrai.
Bravo pour lui. Hein. Lui, il est fort. Hein.
Une hypocrisie totale, oui,
ah,
c'est
oui,
sûr.
Oui, heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça. Hein.
Oui.
Alors donc, ce décalage. Et puis arrive donc l'attaque. Alors à Paris, à Toulouse d'abord, il y a l'attaque du commissariat de Toulouse où un des collègues de Leïla est sauvagement assassiné.
Voilà,
et donc
alors...
tout ça, c'est pas forcément le CLN qui commandite tout ça, en fait.
Ah bah non, c'est la réaction inverse,
voilà,
au contraire.
Voilà, c'est les réactions, parce que les actions, des fois, du CLN ont des répercussions, ont d'autres actions. Enfin, ça fait boule de neige, finalement. La violence entraîne la violence.
Ben, c'est d'ailleurs tout
c'est
à fait l'idée du CNL, c'est de déclencher des attentats terroristes, également dans le quartier, et de créer à l'envers un terrorisme de quartier, c'est-à-dire des réponses, et etc. Et d'enclencher un cycle de d'attentats pour en fait ils visent le chaos politique.
Bah oui, tout à fait.
Exactement.
Ouais. Alors eux de leur côté à Paris, le CLN va faire une action, la première action de Clémentine, hein, la dernière entrée au CLN de Paris, une bombe dans un bar lors d'un concert. Alors évidemment, on imagine le carnage, hein, que ça a pu faire. Et puis il y a aussi en contrepartie, il y a une manif qui est organisée pour les victimes de ce concert, et là il y a de nouveau de la violence, mais qui n'est pas organisée par le CLN, Et puis après, c'est un engrenage, c'est terrifiant, c'est ça qui est terrifiant, quoi. C'est cet engrenage de cette escalade de la violence, de la haine.
Oui,
ça fait peur, hein.
C'est le principe du livre, c'est ce que je voulais partager. Alors après, dans le livre, il faut, ce que j'avais à l'esprit au moment où j'écrivais le livre, c'était des déliquescences sociales. De type Yougoslavie, par exemple, de type Rwanda, des choses comme ça. Bon, évidemment, en France, si ça arrivait, on le verrait sous l'aspect racial, mais ce n'est pas forcément le cas. En tous les cas, ce n'était pas dans cet esprit-là que je l'ai écrit. C'était plutôt l'idée de qu'est-ce qui fait qu'un État tienne, s'impose, et qu'est-ce qui peut, enfin, et essayons d'imaginer ce qui se passerait si effectivement il y a un cycle d'action-réaction, terrorisme et contre-terrorisme, dans lequel on se trouve embarqué, quelles que soient les opinions.
Oui, quelles que soient les opinions politiques, oui, tout à fait. Voilà. En plus, là, c'est tout à fait...
C'était ça, l'idée du livre.
Oui. Alors après, il y a d'autres actions, hein, bien sûr, tout aussi barbares et effrayantes. Hein, une bombe à côté d'une station de métro la veille de Noël. Enfin, vraiment, la situation épouvantable. Et puis, à Toulouse, il y a aussi les parents de Leïla qui descendent de Colmar pour passer les fêtes avec leur fille. Alors, on en connaît un petit peu plus sur l'histoire de Leïla avec ce passage dans ce livre-là. Vous nous dévoilez un peu plus ce côté personnel de Leïla avec ses parents qui sont donc d'origine turque. Oui. Et qui ont l'intention de repartir au pays, ce qui va beaucoup surprendre Leïla. Et puis il y a beaucoup de discussions entre père et fille. On découvre le papa de Leïla. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage et les liens qu'ils entretiennent tous les deux. Je trouve que c'est un personnage, un sage engagé, mais un sage, le papa de Leïla. J'ai beaucoup aimé.
Oui, c'est un homme qui vient de la métallurgie dans l'histoire, qui est maintenant, au moment où ça se déroule, à la retraite. Et c'est un jeune retraité. Et j'ai vraiment campé la relation père-fille. La mère, elle est là, elle est présente, mais elle est un peu effacée. C'est vraiment une relation père-fille. Et j'ai profité de ce père qui donne un peu la clé du titre du roman.
Alors malheureusement, le temps nous rattrape trop, trop vite. Alors la fin, de toute façon, on n'avait pas l'intention de la dire à nos auditeurs. Hein, on garde le suspense.
Et oui, bien sûr,
on imagine que la prochaine enquête donc, de Leïla, puisqu'à la fin du livre, il y a un très beau passage. La fin, j'ai beaucoup aimé. Elle est optimiste. J'ai beaucoup aimé la fin. Elle retrouve son papa dans une manif à Paris, justement. Et donc, c'est la ville qu'elle a choisie pour continuer son travail de capitaine de police. Oui. Donc, j'imagine que la prochaine enquête se passera à Paris avec Leïla, bien sûr.
Oui, alors le roman que j'écris en ce moment, oui, effectivement, se passe principalement à Paris et dans un pays d'Extrême-Orient.
D'accord. Actuel, vous faites
Cambodge,
un peu au Cambodge. Ah, au Cambodge, d'accord.
Oui, voilà.
Ok. En tout cas, merci beaucoup, Maurice, pour ce polar, ou ce thriller, je ne sais pas comment on peut dire, ce roman policier, vraiment qui est prenant, qui est plein de suspense et où la haine tient le haut du pavé. Alors, c'est dommage, on n'a pas le temps de dire d'où vient le titre, mais les auditeurs le liront. C'est justement lors d'une discussion, on l'apprend, lors d'une discussion entre le papa de Leïla et sa fille, qu'on apprend d'où vient ce titre de Chacun selon sa haine, de Maurice Zitniki aux éditions, nouvelles éditions Loubatière. Vous voulez dire
Non, juste vous remercier.
Merci à vous, Maurice. On se retrouve le 21 sur Radio Occitanie à 15h avec le Marathon des mots pour le programme de la 9e édition qui aura lieu du 27 au 30 juin. Et là, on se quitte avec une chanson de Véronique Sanson, Maudit, une chanson qui est présente dans le livre et que Maurice aime particulièrement.
En tous les cas, que j'aime, c'est vrai, et qui a un sens assez particulier
tout
pour le personnage Leïla.
De Leïla, elle n'est pas bien du tout, et on ne dit pas pourquoi, elle écoute Maudit de Véronique Sanson. Adiciat.
Tu as déjà trahi. Combien de gens à qui tu as déjà menti. Combien de gens tu as déjà fait souffrir. Au fond de ton remords, tu l'aimes encore. Tu es prisonnier de ton secret. Mais ta douleur ne passe d'avance. Ta douleur. Thank you. longue